Le fleuve de vie. Le chef des œuvres 3. Samedi 30 avril 2000 sans rêve. Brian Kozurek. Apocalypse 22, 1. Il me montra un fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Pendant plusieurs semaines passées, nous sommes en train d'étudier la prière d'ouverture de Frère Branham de son sermon sur le chef-d'œuvre 05.07-64 pp 2. Alors que Frère Branham a commencé sa prière en parlant de la fontaine inépuisable de vie, dans laquelle nous sommes entrés dans une étude de cette grande fontaine de vie pendant plusieurs semaines passées. Dans notre étude, nous avons montré cette grande fontaine de la vie Dieu, laquelle existait dans une existence solitaire en Dieu pendant une éternité dans le passé. Ensuite Dieu a commencé à produire cette vie Dieu dans la manifestation, pendant qu'il a produit son Fils. Pendant que nous suivons cette vie Dieu descendre le ruisseau de vie ou le fleuve de vie, nous avons une belle image d'un Père et sa lignée. Les demeures futures 02.08-64 p. 199 marquées, le fleuve de vie. Peut-être que beaucoup de ruisseaux le constituent. Maintenant, dans ce monde, je vais juste finir dans quelques minutes. Dans ce monde, je vais juste arrêter. J'ai beaucoup de notes, environ 30 pages. Voyez, dans cette vie-ci je n'ai jamais vu de tellement satisfaisant, comme être dans les montagnes et trouver, comme j'ai prêché sur celle l'autre soir, ce ruisseau qui monte en bouillonnant. C'est la ressource donnant la vie. Quand vous êtes fatigué et assoiffé, vous vous retrouvez à un bon ruisseau. Coulant là où les germes n'émis peuvent pas aller, coulant dans la terre à des milliers de pieds, c'est l'eau pure, authentique, vivifiante bouillonnante. Nous apprécions cela. S'estère un peu. Maintenant, je veux que vous vous représentiez dans votre pensée cette grande fontaine de vie qui était en Dieu. Maintenant tout ce qui estère vivant doit se multiplier. Les cellules qui sont vivantes se multiplient, et les cellules qui n'émis sont pas vivantes n'émis se multiplient pas. Maintenant, dans le livre de Genèse qui est rappelé le livre de commencement ou plus précisément le chapitre semence de la Bible, on montre comment doit venir la vie. Remarquez au chapitre 1 et au verset 3. La première fois que Dieu parle, il y a la lumière, et ensuite Dieu divise ou sépare la lumière des ténèbres. La deuxième fois que Dieu parle, il produit de l'eau et divise l'eau d'au-dessus des eaux d'en dessous. Remarquez que les deux premières fois que Dieu parle, il y a la séparation. Pourquoi? Parce qu'à moins que vous ayez une division des cellules, vous n'émis pouvez pas avoir une multiplication de la vie. Par conséquent, Dieu qui estère la vie, n'émis pouvait pas séparer cette vie de lui-même sans diviser cette cellule de vie sur la première cellule de la parole dans son Fils, et ensuite dans des fils. Ainsi, nous voyons que les deux éléments plus essentiels pour conserver ou maintenir la vie s'estèrent la lumière et l'eau. Et ainsi, Dieu crée d'abord l'atmosphère pour la vie, en produisant la lumière et ensuite l'eau. Maintenant, je vous demande alors, quel bien ça a été pour Dieu de produire la vie s'il n'y avait aucune atmosphère pour conserver cette vie? Par conséquent, si c'était nécessaire pour Dieu de créer la bonne atmosphère pour conserver la vie avant qu'il ait donné la vie, alors combien plus conscients devrions-nous être que l'atmosphère est très importante si nous voulons conserver notre vie et notre marche chrétienne. Beaucoup d'églises n'émis comprennent pas ce principe et au lieu de travailler sur l'atmosphère dans l'église, ils sortent avec zèle pour amener des autres dans l'enclos et ils finissent par les amener dans la confusion et le conflit. L'Église devrait premièrement se concentrer sur son atmosphère à elle, et une fois cette atmosphère établie, ensuite il devrait partager la vie de Dieu qui estère la parole loin aux autres. Alors ils peuvent les amener dans un endroit qui va nourrir et conserver la vie de Dieu qui estère en eux. Dans Jean 1, nous lisons, ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché, concernant la parole de vie. Remarquez ici que la parole Esther appelée la parole de vie. 2. Car la vie a été manifestée, qu'Esther ce qui a été manifesté? Il a dit que la vie a été manifestée, et cependant ce même apôtre Jean a écrit dans 1h14 que la parole a été manifestée. Ainsi, nous voyons que la parole Esther la vie, Jean 6, 63 les paroles que je vous parle sont esprit et vie. Et ainsi, Jean continue, et nous l'avons vu et nous lui rendons témoignage, et nous vous annonçons la vie éternelle, qui était auprès du Père. La Bible anglaise dit, la parole qui était avec le Père trad. Vous voyez que cette vie, était avec le Père, car il est cette grande fontaine de vie là, et qui nous a été manifestée. 3. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons, à vous aussi, afin que vous aussi vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Maintenant, comme je le disais, l'eau représente les paroles de Dieu. Nous sommes lavés dans le lavage d'eau par la parole. Et on nous a ordonné dans le livre d'Apocalypse de venir boire librement au fleuve de vie. Ainsi, la parole Esther la vie et elle Esther représentée dans l'écriture par l'eau. Maintenant la lumière représente l'illumination sur la parole. On nous a dit dans Psaume 110 que la parole de Dieu Esther une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier. Mais nous avons aussi découvert que les cinq vierges folles avaient une lampe mais n'avaient pas d'huile pour allumer cette lampe. Ainsi, l'huile s'estait à l'esprit, dans et sur la parole, et laquelle étant allumée, Esther la lumière de la révélation, révélant ce qui avait été dans l'obscurité et faisant briller la lumière sur elle en la faisant manifester et en la rendant clairement visible. La lumière représente la grande sagesse et révélation de Dieu. Et c'est Esther l'heure à laquelle il nous donne l'esprit de sagesse et de révélation dans la connaissance de lui-même. Remarquez que c'est Esther la colonne de feu, qui Esther descendue en cette heure-ci et qui a produit un cri. La colonne de feu n'Esther pas Dieu mais c'est Esther l'onction sur lui, en nous montrant sa présence Shekina, illuminant sa présence parmi nous. Maintenant, nous parlions d'une atmosphère qui va soutenir et conserver la vie. Et nous voyons que Dieu a préparé le chemin par lequel la vie devait venir. Et quel bien ça ferait de recevoir la nouvelle naissance si nous n'avons pas d'atmosphère dans laquelle entrer et qui va conserver notre nouvelle vie. Maintenant, cette grande fontaine de la vie Dieu, comme elle a commencé à couler de Dieu pour descendre à travers son fils et dans des fils, Esther le ruisseau de la vie Dieu, le fleuve de vie venant du trône de Dieu. Maintenant, cette grande fontaine de vie commençait à se déplacer et pendant qu'elle commençait à se déplacer, comme Dieu lui-même commençait à produire à la manifestation ses pensées, la vie de Dieu commençait à déborder de la présence de Dieu. Elle coula premièrement dans son Fils, comme nous trouvons Jean 5h26, car, comme le Père a la vie en lui-même, ainsi la donne au Fils d'avoir la vie en lui-même. Proverbe 8, 22-36 nouvelle version internationale, NIF, l'Éternel m'a créé comme la première de ses œuvres, avant ses œuvres les plus anciennes. 23 J'ai été établi depuis l'éternité, dès le commencement, avant l'origine de la terre. 24 Je fus enfanté quand il n'y avait point d'abîme, point de source chargée d'eau. 25 Avant que les montagnes soient fermées, avant que les collines existent, je fus enfanté. 26 Il n'avait encore fait ni la terre, ni les campagnes, ni le premier atome de la poussière du monde. 27 Lorsqu'il disposa les cieux, j'étais là. Lorsqu'il traça un cercle à la surface de l'abîme. Ainsi, nous voyons donc que Dieu lui-même donnait naissance à un fils. Et alors nous choisissons l'histoire de ce fleuve de vie dans la Genèse, et comme nous avons étudié cette vie Dieu, qui va de génération en génération jusqu'à ce que nous soyons venus à Christ. Maintenant, dans cette dernière heure-ci, Dieu lui-même nous a amenés en arrière où nous sommes tombés en Éden, à l'endroit où Dieu a tout commencé quand il a soufflé dans Adam, le souffle de vie. Dans le livre de la Genèse qui est Esther le livre des commencements et qui est Esther appelé le chapitre, semence de la Bible, nous voyons la loi de la reproduction définie. Genèse 1, 11 que chaque semence se reproduise selon son espèce. Maintenant ce mot espèce fut traduit à partir d'un mot qui veut dire la portion. Alors nous voyons que Dieu a commencé à envoyer cette vie Dieu dans des fils en commençant avec Adam, et ensuite de génération en génération. Il a commencé par souffler dans Adam le souffle des vies et ensuite cette semence de la vie de Esther passait de génération en génération jusqu'à ce que nous voyons la semence s'écouler dans la dernière heure. C'est Esther en ce temps-ci quand Dieu Esther descendu de la gloire en portant avec lui un cri, qui Esther un message, et lequel contient cette vie Dieu. Car Jésus a dit, mes paroles sont esprit et vie. Ainsi, ce ruisseau de la vie Dieu dans cette heure Esther venu une fois de plus des reins de la pensée de Dieu, et une fois de plus, ce ruisseau Esther venu faire la même chose qu'il était censé faire dans Adam. Par conséquent, Dieu Esther de nouveau venu sur la scène en cette heure-ci et a soufflé dans les élus du temps de la fin le souffle de Dieu, inspirant ainsi un peuple par le souffle de sa propre bouche. Maintenant, demain matin nous continuerons notre étude de cette pensée sur cette grande fontaine de Dieu vie. Seulement cette fois-ci, nous regarderons la loi de la reproduction et nous montrerons comment la nature même du donateur de la vie doit, selon cette loi de reproduction, produire sa propre nature dans sa semence ou sa postérité. Pour trouver cette loi de la reproduction, nous devons ouvrir le livre des commencements ou le livre des semences qui est Esther Genèse. Le mot Genèse même a son radical du mot gène, et nous pourrions dans notre langue anglaise le prononcer Genèse, le gène Esther, trad. Parce qu'après tout, c'est Esther ce qu'Esther le livre des gènes. Dieu qui s'identifie lui-même 20.03-64p, 3 demain matin. Je comprends. C'est Esther le petit déjeuner des hommes d'affaires du plein l'évangile. D'habitude, là où ils ont un chapitre, j'ai le privilège de parler à leur petit déjeuner. Pour cette fois-ci, c'est Esther la seule organisation qui n'est pas une organisation. Mais le seul groupe auquel j'appartiens ce sont les hommes d'affaires chrétiens. Et maintenant, et je parle simplement pour eux au niveau international. Maintenant, nous avons confiance que, ce soir que ce rassemblement Néhémie sera pas en vain. Je suis venu à vous un peu fatigué, une gorge usée, et j'ai reçu un peu de bronchite de. Je suis venu de Tucson où c'est Esther vraiment bon et sec. Et je viens ici, et c'est Esther vraiment bon et mouillé. Ainsi il y a un vrai contraste. Si vous aviez tous obtenu toute l'eau ici, si vous l'enverriez sur notre chemin nous l'apprécierions. Mais vous Néhémie pouvez pas faire cela, bien sûr. Mais je vous dis une chose, il y a une parabole là. Toutes nos choses en Arizona. Nos arbres sont pleins d'autocollants. Tout a un autocollant. C'est Esther parce que c'est Esther sec. Maintenant, si ce même buisson avait poussé ici, ce serait une ravissante agréable feuille. Voyez, c'est Esther sans eau. C'est Esther pourquoi ça devient un autocollant. Et quand l'église devient sans l'eau de vie, elle devient sèche et collant aussi, collant et mordant tout. Mais là où les eaux de vie coulent, ça ouvre la feuille à rend tendre, décontractée, et douce, sainte, et acceptable à Dieu. Alors, que le Seigneur Dieu nous arrose ce soir, que nous n'y soyons pas des autocollants, mais nous serons de bonnes feuilles, que les gens déprimés peuvent se mettre sous l'arbre de notre ombre et trouver du repos pour leurs âmes. La trompette donne un son confus. 14.01-63p, 95. Notre Père Céleste, je sais que tes paroles sont tellement vraies. Elles ne peuvent pas faillir. Elles sont la parole de Dieu. Elles sont Dieu. Et tu as dit, celui qui vient à moi, je ne le mettrai pas dehors. Et ces hommes et ces femmes sous conviction, sachant qu'ils n'ont pas raison, ils se sont avancés ce soir, Seigneur, pour confesser qu'ils ont tort, sachant qu'ils ont été battus par un mouvement intérieur qui leur fait une offre de venir à la fontaine. Et s'ils sont debout avec les têtes courbées et les cœurs, pour boire des eaux de vie gratuitement qui ont été promises par Dieu, reçois-les, Père, dans ton royaume. Ils sont tiens. Tu as dit, personne n'émis peut venir à moi si mon Père n'émis l'attire premièrement. Et tout ce que le Père m'a donné viendront à moi. Et ça montre que Dieu a donné ceci à Christ pour un don d'amour. Et s'ils sont debout, Seigneur, personne n'émis peut les arracher de ma main. Et je prie, Dieu, que tu les protèges ce soir alors qu'ils se tiennent ici. Et donne-leur le baptême du Saint-Esprit pendant qu'ils sont ici à l'autel. Que la grande puissance de Christ remplisse tellement leur vie maintenant. Ils ont fait leur confession. Ils se sont avancés. Tu as dit, celui qui me confessera devant les hommes, je le confesserai devant mon Père et les saints anges. Nous savons que l'œuvre a été accomplie. Maintenant, Seigneur, scelle-les dans le royaume de la promesse du Saint-Esprit. Accorde-le, Seigneur. Déverse ton esprit sur eux, et remplis-les de l'Esprit du Dieu vivant, qu'ils puissent vivre des témoignages tous les jours de leur vie pour le royaume de Dieu. Grâce Fellowship Tabernacle, mai 2008. Veuillez adresser toute correspondance, ainsi que vos questions et commentaires au sujet de ce site internet à briancocourec@yahoo.com.